Oui, moi je voulais savoir le rapport qu'il y avait entre donc le temps des cerises et la structure du, je ne sais pas si ça s'appelle un resto, mais de, vous savez ce qui est Place Aligre, Place d'Aligre, près du Carrefour, près de la commune d'Aligre.
Non, on nous en a parlé tout à l'heure. Non, non, mais je ne connaissais pas. J'ai habité Faubourg-Saint-Antoine il y a une trentaine d'années, mais je ne connaissais pas cette association.
Je voudrais savoir.
Non, on n'est pas, on n'est pas en lien. On n'est pas en lien. On n'est pas du tout en lien ensemble.
C'est une association, c'est un café associatif qui a été créé par les habitants du quartier et qui donc qui fait à manger tous les jours sauf le samedi ou le dimanche. Mmh. Ils ont 2-3 jours de et ils font à manger l'après-midi et le soir avec des activités, des spectacles, plein de choses comme ça. Voilà. Mais c'est pas du tout une scope. Hein. Oh, ils existent depuis, ça fait un bon bout de temps maintenant. Hein. Je sais pas, faudra que je regarde, mais ça fait extrêmement longtemps.
Ouais,
et ils sont à côté de la maison des ensembles, qui fait un peu, c'est un peu voilà, ça fait un peu partie de tout ça, de et il y a le marché d'Aligre, jusqu'à qui est assez célèbre aussi pour la qualité de ses produits.
D'accord. Non, nous on n'est pas du tout en contact, on connaissait pas. Non, à la Butte aux Cailles. Avant, il y avait une association qui s'appelait Culture au quotidien et qui faisait bar et qui s'occupait des spectacles, dont les spectacles du temps des cerises et des spectacles dans un certain nombre de lieux, particulièrement dans le 13e. Ça, c'était Ramon qui l'avait monté. Et puis après, il y avait eu donc la création du Merle Moqueur qui est juste en face du temps des cerises. C'était suite à un rachat d'un troquet qui s'était cassé la gueule. Et c'était en coopérative ouvrière aussi. Donc, c'était les habitants du quartier. Il y avait une cinquantaine de personnes qui faisaient partie de la SCOP et évidemment le temps des cerises. Bon, en fait, ça s'est mal fini, ça s'est cassé la gueule. Et ensuite, il y a eu la création de la Folie en tête au bout de la rue, qui était un café musique aussi, et qui était composé d'anciens du Merle Moqueur, SCOP le Merle Moqueur, et d'anciens de la SCOP le temps des cerises. Voilà. Donc on était liés, donc effectivement, dans le quartier. On était liés entre le Merle Moqueur, la Folie en tête, le temps des cerises et l'association des amis de la commune. On était tous quand même très liés. Quoi. Maintenant, beaucoup moins. Bon, avec le Merle Moqueur, plus du tout. C'est devenu un truc privé. Ils ont gardé le nom. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Et puis, bon, avec la Folie en tête, on a pris quelques distances aussi. Bon, on n'est plus aussi liés qu'avant. Bon, on boit peut-être un peu moins aussi. Je sais pas. Mais. Si, les amis de la commune, si. Les amis de la commune, si.
C'est si le statut existe à l'étranger, dans les mêmes termes, ou est-ce qu'il y a des différences au niveau européen ou...
Alors,
oui, ça existe.
D'après ce que j'ai compris, SCOP, ça existe ailleurs, mais nécessairement, l'histoire n'étant pas la même, les statuts légaux ne sont pas les mêmes non plus. Et j'ai l'impression que ça fait un peu comme le bio, c'est-à-dire que, peut-être pas dans les mêmes proportions, mais globalement... C'est pas tout à fait les mêmes statuts ailleurs, sachant que le problème se démultiplie quand on ne parle plus seulement de SCOP, mais quand on parle de coopérative en général. Là, on retombe sur les mêmes confusions qu'en France, c'est-à-dire qu'une coopérative, dans d'autres pays, ça peut également, comme en France, quand on parle du Crédit Agricole, comprendre beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'est un mouvement, là, j'ai pas tous les éléments sur les autres pays, mais par exemple, en Italie, notamment, et en Allemagne, c'est très développé, c'est même beaucoup plus fort qu'en France. Alors après, qu'est-ce qu'il y a comme différence exactement? Là, je vous renvoie à vos recherches parce que. Mais je sais que ça fait, par exemple, l'objet d'un débat au niveau des coopératives, ne serait-ce que dans l'Union européenne. Il existe donc une forme de fédération avec un sigle improbable que j'ai quelque part par là, où donc ils essayent de mettre en place des critères communs un petit peu pour faire la publicité ou pour se mettre d'accord. Et par exemple, quelque chose qui m'a frappé dans les têtes de chapitre où ils essayent donc de le compte rendu de leur discussion pour se mettre d'accord sur ce que serait la coopérative au niveau de l'Union européenne. Donc c'est pas statutaire, mais pour essayer de qu'est-ce qu'on entend dans les différents pays, ils parlent de participation substantielle. Donc des ouvriers. Je pense que l'adjectif substantiel en lui-même est intéressant. Bon, à l'intérieur de ça, les scopes, c'est plus précis. C'est plus précis. On retombe sur les critères un peu français, mais au niveau des coopératives, participation substantielle. Bon, c'est voilà. Donc, de manière générale, ça mérite de regarder dans le détail. Quand on parle de coopératives, il y a un peu tout et rien, et sur les scopes en particulier, les différences de statut, je saurais pas vraiment dire.
Oui, juste une remarque fondée sur une expérience qui date de la semaine là, avec un projet de scope qui a priori s'est cassé la figure. Et il me semble que une des difficultés aujourd'hui, c'est quand même d'arriver à faire fonctionner ensemble au moment de la création un collectif dans un moment où la vie collective elle a beaucoup de mal. Tout a changé, les repères ont changé et l'art de vivre ensemble est quand même en a pris un sacré coup avec l'évolution de la société en ce moment. Alors même avec des gens portés de bonne volonté, sincères dans leur démarche, avec une préoccupation éthique, je pense que un des problèmes, à côté de tout le mouvement qui peut être porteur par ailleurs, pour des bonnes et des moins bonnes raisons, mais un des problèmes actuels, c'est comment arriver à faire fonctionner, comment arriver à rassembler des gens et faire fonctionner ce collectif, au moins jusqu'au moment de porter l'entreprise à son démarrage. Après, je veux dire, un peu par la force des choses, il faut bien trouver les moyens de vivre ensemble. Mais tout ce chemin-là n'est pas facile.
Ça, c'est vrai. D'ailleurs, à nouveau, dans le documentaire Entre nos mains, on avait des aperçus de ça. C'est-à-dire que le travail, alors qu'on était dans le cadre d'un travail ouvrier où il y a quand même du lien entre les travailleurs, c'était pas un travail complètement parcellaire où les gens ne se parlent pas. Et il y avait quand même déjà des difficultés on sentait des petites tensions. Il y avait des choses à résoudre pour arriver à monter le projet. Mais après, je pense que ça se pose beaucoup aussi pour des créations d'entreprises de toutes pièces. Effectivement, c'est un problème. Mais c'est vrai que quand on a affaire, par exemple, au Fralib, où là, pour le coup, le collectif existe, il est soudé dans la lutte, tout ça, ça permet de mettre en valeur aussi que des collectifs qui existent, qui fonctionnent, il y en a beaucoup. Et par exemple, encore une fois, dans le documentaire Entre nos mains, j'oublie à chaque fois le nom d'entreprise, mais bon, à la fin, ils arrivent à créer un collectif. Donc finalement, cette difficulté-là, elle est... Finalement, j'ai envie de dire, dans la lutte en tout cas, vu que dans les deux cas, c'est des reprises, elle est balayée. Je ne dis pas après pour dans la survie de la SCOP et pour des créations pures, mais en tout cas là, dans le cadre de la lutte, le collectif, il existe. Et le problème, il vient qu'on met des bâtons dans les roues, clairement. C'est-à-dire que clairement, Carrefour, là, dans le cadre d'Entre nos mains, qui est le principal client, dit non, on ne sera plus votre client. Parce que le documentaire laisse entendre que c'est suite à un coup de fil de l'ancien patron à qui justement on n'avait pas accordé le statut qu'il voulait dans la SCOP. Donc c'est des choses qui existent. Chez les Fralib, si Lipton accordait la marque Elephant aux 200 personnes qui luttent actuellement pour la reprise, dans une semaine, deux semaines, ils reprennent la production et c'est à nouveau rentable. Mais c'est parce que Lipton, on fait pression sur Lipton et Lipton connaît bien les intérêts de manière générale des multinationales, Lipton refuse absolument de donner la marque Elephant qui est actuellement produite en Pologne mais qui n'est distribuée qu'en France. Donc ça, c'est les absurdités du système qu'on connaît maintenant. Mais donc c'est pour dire que il y a effectivement peut-être une difficulté pour que des scopes émergent de collectifs, de choses comme ça, que c'est toujours difficile de créer un collectif et de le maintenir. C'est peut-être l'expérience dans les cerises là-dessus, c'est difficile de renouveler quand quelqu'un part, de recréer des collectifs. Mais dans plein de cas, ce qui fait barrage au SCOP, ce n'est pas le collectif, c'est que justement, il y a un collectif et on veut le briser. Il y a plein de cas où c'est un peu l'inverse, j'ai envie de dire.
Oui. En fait, ce qui est vraiment, vraiment important, et ça paraît facile comme ça dans le discours, mais c'est vraiment d'accepter les différences et d'utiliser les différences des uns et des autres. C'est-à-dire qu'effectivement, dans une SCOP, ce sera comme dans n'importe quelle structure. Il y a forcément des gens qui vont se retrouver avec un statut de leader parce que c'est leur trip, et d'autres qui vont se retrouver assistés parce que c'est leur trip aussi. Et ben, il faut accepter que la personne qui est derrière et qui s'intéresse pas trop et qui donne l'impression d'être un peu à la traîne, et ben, elle a aussi son utilité et que c'est bien aussi qu'il y ait des gens qui soient un peu plus calmes. Qu'on peut pas non plus monter une boîte que avec des leaders, sinon ça va partir en vrille. Et que ce qui est important, c'est justement nos différences et arriver à les accepter, à les écouter et à les utiliser. c'est facile dans le discours, ça l'est beaucoup moins dans la vie de tous les jours, mais c'est vraiment c'est incontournable. Sinon, c'est pas possible. Sinon, ça peut, voilà, ça peut être chaud. voilà. Mais bon, c'est possible. Enfin, moi, ce que je voudrais dire, ce que je dis chaque fois que j'ai interpellé par rapport à ça, je dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est possible. La preuve, ça existe.
Et c'est une belle expérience.
Ah oui, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Oui. Bon, cette nuit, j'ai très mal dormi, par exemple. Je faisais des cauchemars sur le Tannestry, j'en sortais pas. C'était l'enfer, l'enfer. Donc, parce que c'est une façon de vivre, c'est important. Enfin, c'est pas comme, effectivement, d'aller faire son boulot de façon anonyme. Et puis, c'est une façon de vivre, c'est fort quand même. Hein. C'est pas rien, mais c'est magique.
Le micro.
La couleur. Juste une petite, une dernière petite remarque. C'est que tout à l'heure, on a parlé des 49% et qui étaient suspects. Enfin, c'est un peu ce que j'ai entendu, quoi.
Ouais.
Or, c'est pas forcément. C'est comme tout. Hein. C'est ambigu, mais ça peut être le meilleur et le pire. Parce qu'on parle de la SCOP, propriété, œuvre, renouvelée tous les jours des gens qui y travaillent, mais on peut aussi soutenir une SCOP. Et le soutien de la SCOP, il est dans les 49%. Alors, le soutien de la SCOP, il peut être intéressé et tendre à une prise de contrôle ou en tirer des bénéfices, tout ce qu'on veut, comme tout ce qu'on peut apporter de contribution à une réalisation. Mais c'est aussi, ça peut être aussi quand même le moyen d'aider une SCOP. Il me semble que ça fait partie aussi du mouvement. Et là aussi, il y a à trouver les bonnes modalités, l'esprit. C'est pas un don. On est dans une société malgré tout avec un capital. Tu apportes un capital, mais ton capital, il est de la même manière que le capital des associés de la SCOP. Il n'est pas réévalué. Donc c'est pas une affaire. Clairement, c'est pas une affaire. Quoi. Je veux dire, c'est pas, on va pas investir de l'argent dans une SCOP parce qu'on va en retirer, parce qu'on va en attendre des profits particulièrement.
Mais d'ailleurs, il est assez fréquent qu'un patron d'entreprise qui cède son entreprise aux ouvriers sous forme de SCOP, il est très fréquent que le patron les accompagne pendant 1, 2 ou 3 ans. Et souvent de façon gratuite, quoi. Il y a une démarche. Voilà. Et oui, parce que ça, il faut du temps pour apprendre à gérer une entreprise, quoi. C'est pas facile, quoi. C'est pas facile, et surtout à notre époque. Donc, effectivement, accompagner les gens, c'est vraiment important. Ouais.
Juste pour justement sur ce principe qu'il y ait des éléments extérieurs aux travailleurs qui participent. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais dans toute on va dire l'univers de l'économie sociale et solidaire, il existe aussi donc les SCIC, je ne sais pas comment ils prononcent, mais bon, société coopérative d'intérêt collectif, où là, alors là, c'est carrément une autre forme, c'est-à-dire qu'on a en gros, sur le principe de la SCOP, les salariés intéressés, donc les salariés propriétaires de l'entreprise. On a les bénéficiaires de l'entreprise, du travail de l'entreprise, et une puissance publique, qui en gros fait le principe du triumvirat, la troisième personne pour départager en cas de conflit entre les bénéficiaires et les travailleurs. Donc c'est-à-dire qu'on a déjà un peu pensé à ce système qui regroupe finalement tous les usagers du travail. Alors j'ai pas assez travaillé sur ce sujet-là pour vous donner des retours d'expérience de comment ça fonctionne. Je crois que c'est réservé quand même à certains secteurs pour l'instant, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui, bon, je sais pas, dans la restauration, on pourrait peut-être l'essayer. On peut imaginer une SCOP qui fonctionnerait avec ah non, mais de toute façon, on fait déjà peur aux Aveyronnais, donc autant après, on peut réfléchir. Mais par exemple, les clients, la puissance publique qui dit, bon, ben là, on attend l'entreprise, donc il nous faut des menus ouvriers le midi, il nous faut ça le soir. Et les salariés qui essayent de dire, oui, ben ça, c'est faisable. Non, là, c'est pas assez cher. Je dis ça, il y a encore l'économie sociale et solidaire. Il faut savoir que quand on dit que c'est l'autre monde possible, c'est vrai. Mais cet autre monde-là, on l'explore que pour l'instant, que par petits bouts. Donc on a plein d'idées de choses qui existent déjà, qui prouvent qu'on pourrait faire autrement, de façon radicalement différente. Parce que là, on n'a pas le temps de développer, mais sur la restauration, c'est tous les jours que je mesure un peu plus l'écart qui est entre ma pratique de serveur au quotidien et ce que je peux observer quand je vais dans la majorité des restaurants. Donc, simplement pour dire qu'il y a un écart extraordinaire, qu'il y a des expériences qui font vivre cet écart avec le monde dans lequel on vit, mais que c'est encore rien. Je suis à peu près persuadé qu'il y a mille et une façons encore de s'organiser autour du travail de la production dont on n'a pas encore tout à fait idée, je pense.